Merci beaucoup, hein, pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à votre espace de débat. Et bon, je vais donc introduire notre discussion sur le thème de l'intersectionnalité, qui est en effet, comme on disait, un thème très vaste. Il est devenu de plus en plus complexe avec la multiplication des usages de cette notion qui a connu un très grand succès international. Je crois pour la simplicité descriptive de la métaphore de l'intersection et aussi pour sa malléabilité théorique et son utilité heuristique. Ma présentation sera un peu abstraite, donc je n'ai pas préparé un PowerPoint, mais pendant que je vous parle, je voudrais vous montrer quelques images de la métaphore de l'intersectionnalité qui circulent dans la littérature et qui peut-être seront utiles pour réfléchir sur ces rôles cognitifs de l'intersection comme image et sur les conséquences aussi de ces représentations sociales et scientifiques. Voilà, bon, ça c'est les titres. Et ça sont quelques images. Alors, je vais essayer d'abord de faire une sorte de petite cartographie de la discussion sur l'intersectionnalité, de passer à travers des différents plans analytiques qui intersectent l'intersectionnalité, c'est-à-dire la dimension épistémologique et celle méthodologique. Et puis dans les débats, j'imagine, nous aurons aussi la possibilité de parler de la dimension du discours dans l'espace public sur l'intersectionnalité comme dispositif critique de l'articulation des rapports de pouvoir, trop critique et sélectif pour quelqu'un, trop affaibli par ses adaptations universitaires pour d'autres. En effet, il y a un certain décalage entre l'intersectionnalité comme outil de mobilisation et l'intersectionnalité comme outil d'analyse, même si dans les deux cas, il y a eu des adaptations et des réappropriations dans des contextes différents et souvent à partir des débats sociaux nationaux préconstitués. Du coup, à l'intérieur de la littérature internationale, il y a des différentes interprétations de l'intersectionnalité, certains donc plus proches au militantisme et d'autres beaucoup plus proches de la recherche, de la discussion théorique. C'est plutôt sur ces deuxièmes points que je voudrais vous parler maintenant. Et donc, pour commencer, je pense que c'est peut-être utile de partir avec donc cette cartographie pour mieux comprendre l'histoire et la géographie analytique de l'intersectionnalité, pour aller aussi au-delà d'une utilisation parfois trop rapide qui a transformé l'intersectionnalité dans une catégorie pour tout, hein, donc brouillé, parfois méconnu ou victime de ce qu'on pourrait définir en sorte de jargon de l'intersectionnalité. Et donc, d'une façon générale, l'intersectionnalité fait référence à l'idée d'imbrication, d'articulation, donc pas vraiment à l'idée de cumulation. Donc, l'imbrication des dimensions sociales historiquement analysées en général de façon séparée et qui sont au contraire entremêlées dans l'expérience quotidienne des sujets. Et donc, notamment, sont d'abord la dimension du genre, qui est déjà une dimension plurielle, qui comprend les représentations et les constructions sociales du genre, de la sexualité, les aspects normatifs liés aux politiques sociales et de la famille. Et bien sûr, puis il y a tous les aspects matériels liés au corps et à la construction sociale du corps. Puis la deuxième dimension, toujours présente dans les analyses, ou souvent présente dans ce type d'analyse, est celle de la position sociale, ou parfois exprimée en termes de classe sociale, qui est aussi une dimension déjà très, très dense, très hétérogène, qui comprend encore les conditions matérielles de l'existence, donc le capital économique, les conditions de travail, de salaire, de contrat, les conditions d'habitation, les possibilités de consommation, l'accès aux services. Donc là encore, c'est une catégorie très dense. Et enfin, la troisième dimension classiquement considérée dans l'intersection est celle de la, disons, de la couleur, qui est également un référent très complexe parce que la couleur est un signe, un marqueur avec une épaisseur historique souvent méconnue, avec des significations, des conséquences sociales en termes de séparation, de distinction. Un thème qui dans le monde anglo-saxon, on le sait bien, parfois exprimé avec la notion de race, qui est beaucoup plus problématique en Europe, bien sûr. Mais en général, la couleur fait référence d'abord au fait de ne pas être blanc, de ne pas appartenir généalogiquement à la dimension historique, historiquement hégémonique, eurocentrique, avec donc des conséquences en termes de discrimination et d'inégalité. Mais ces trois dimensions ne sont pas les seules possibles, comme on voit aussi dans les images. Quant à l'histoire de cette notion, sa genèse est notamment américaine. Donc, aux États-Unis, l'intersectionnalité a été imaginé toujours à l'intérieur des études sur la question de la couleur, donc de la blackness, y compris avant les mouvements du black feminism. Par exemple, une première intuition sur l'utilité de l'intersectionnalité était présente dans les travaux de William Du Bois, l'un des premiers sociologues américains qui avait commencé à étudier l'intersection entre la couleur, donc la question du racisme, et la classe sociale et les mouvements de la classe ouvrière américaine. Donc, il avait étudié la condition spécifique des ouvriers afro-américains, et donc aussi la difficulté, parfois l'impossibilité à construire une action collective commune et plus universaliste, parce que la couleur était un signe de séparation trop fort dans la société américaine, encore trop, disons, ségrégationniste. Mais Dubois n'utilise pas encore la notion d'intersectionnalité et également l'utilisation imbriquée des notions de genre, classe et couleur faites par exemple par les activistes des mouvements de droit civil comme Angela Davis ou Balux ne sont pas encore une élaboration explicite de la notion d'intersectionnalité, même si cette idée commence à mourir, disons, à l'intérieur de ces mouvements. Et donc, comme on disait tout à l'heure, c'est seulement à la fin des années 80 qu'elle a utilisé pour la première fois comme un outil heuristique par Kimberlé Crenshaw, qui est universellement reconnue comme la mère fondatrice de cette notion, et qui est cependant un raisonnement qui est lié à une critique du droit américain, donc de sa difficulté à intérioriser d'une façon systématique les questions soulevées par les mouvements de droit civil. Et parce que le droit a tendance à essentialiser, à traiter séparément les catégories telles que le genre, la couleur ou l'ethnicité ou la classe pour juger les discriminations, par exemple. Et donc, selon Crenshaw, les formalismes juridiques déforment la dynamique de la domination qui est toujours intersectionnelle. Et donc, pour ça, elle pensait aux femmes noires victimes de la violence conjugale, mais il y a aussi beaucoup d'autres cas, par exemple, les femmes afro-américaines virées à la première occasion par la General Motors dans les années 70. Donc, disons, les problèmes juridiques étaient la difficulté à reconnaître leur situation des femmes victimes à la fois du patriarcat et des femmes discriminées en tant que noires, là où, au contraire, ces dimensions ne sont pas séparées, mais c'est légitime réciproquement, c'est construit ensemble. Donc, la notion d'intersectionnalité part d'une observation concrète de la vie sociale, de la vie quotidienne et de la nécessité de penser ces dimensions comme donc, le genre, de la couleur, de la condition sociale, comme une imbrication multidimensionnelle et simultanée d'influence réciproque et non comme des dimensions isolées ou simplement cumulées. Et donc cette intuition a été ensuite développée aussi par d'autres sociologues, une philosophe américaine dont on pourrait citer parmi les plus influentes et sans doute Patricia Hill Collins, qui parle de la matrice de la domination, c'est-à-dire de la spécificité située des rapports de pouvoir. Mais là encore, il ne s'agit pas vraiment d'une cumulation ou d'une addition, mais plutôt d'un risque de multiplication. Donc la femme afro-américaine peut se trouver au croisement de plusieurs vecteurs de pouvoir, comme les patriarcats, les racismes, qui se renforcent réciproquement et dont il faut déconstruire les mécanismes de légitimation, donc favorisés par cette imbrication. Et d'ailleurs, par exemple, Hill Collins s'efforce aussi de montrer comment l'intersectionnalité peut être un instrument démocratique valable aussi à l'extérieur de la spécificité américaine, utile pour réfléchir sur les inégalités caractéristiques de la mondialisation. Donc, le but de toutes ces analyses est certes celui de dénoncer l'imbrication des discriminations et la prétendue neutralité du féminisme blanc ou des mouvements ouvriers blancs, ce qui a été l'objectif historique primaire du black féminisme américain, nécessaire pour déconstruire un passé de ségrégation. Mais l'intersectionnalité reste d'abord un outil de recherche, même si ici la recherche est un instrument d'autoréflexivité qui part de l'expérience spécifique des femmes afro-américaines. Et qui est pensé comme un instrument pour réfléchir sur son propre positionnement social, pour favoriser la création d'une voix autonome spécifique à cette position, qui n'est pas celle d'une femme blanche ou celle d'un homme noir. Ensuite, à partir des années 90, la notion d'intersectionnalité a commencé à voyager, hein, au-delà des États-Unis, en Europe. Ailleurs, a connu de nombreuses adaptations théoriques locales, mais surtout a soulevé une réflexion épistémologique et méthodologique qui a montré toutes les potentialités heuristiques de la métaphore de l'intersection, ce qui a parfois éloigné l'intersectionnalité de son lien originaire avec le black feminism. Cette dimension épistémologique, on peut la considérer comme une sociologie de la connaissance liée surtout à la réflexion à propos de la dimension catégorielle. Si l'intersectionnalité ne se limite pas à mettre en relation ou additionner les différentes catégorisations sociales, donc les genres, la couleur, les autres dimensions, elle peut représenter un outil analytique pour réfléchir sur la relation entre les dimensions structurelles et la capacité d'action individuelle qui est mise en lumière par cette articulation. Donc, si l'usage plus militant de l'intersectionnalité, c'est celui d'être un instrument pour dénoncer l'accumulation des formes de discrimination, ou pour faire converger des luttes initialement séparées, son usage, disons, universitaire, analytique, nous offre plutôt la possibilité d'étudier non seulement ce que le sujet ne peut pas faire, parce qu'il est dominé, mais aussi ce qu'elle peut faire dans un contexte donné. Donc, l'intérêt, justement, celui d'ouvrir la boîte noire de l'intersection comme point de chute de plusieurs catégorisations sociales, sans partir d'une vision, disons, victimaire. Donc, une approche épistémologique à l'intersectionnalité nous suggère qu'elle elle ne doit pas être conçue comme le croisement de catégories réifiées, donc les genres, la couleur, etc. Mais plutôt comme une contingence fluide dans laquelle ces références identitaires peuvent aussi être négociées dans le contexte. Ou mieux, la recherche peut établir, peut nous montrer jusqu'à quel point il y a une catégorisation réifiée ou bien fluide, et comment chaque contexte constitue un champ de contraintes et des ressources dans lesquelles chaque individu essaie de négocier à sa façon les identifications dans chacune de ces catégories. Et donc, cela peut nous aider à comprendre comment, dans chaque situation spécifique, les catégories du genre, de l'âge, de l'ethnicité peuvent jouer d'une façon différente et quelles sont les marges d'action d'un sujet, de ses identifications, de sa capacité de vivre l'libération de ces catégories. Et donc, cela nous permet de saisir les doubles caractères de la réalité sociale. Donc, les structures sociales sont à la fois sans doute des données avec une existence autonome qui traçant la volonté des individus, bien sûr, mais sont aussi des constructions, c'est-à-dire les résultats d'action, d'interaction intersubjective, d'attribution des sens, qui rend ces structures historiquement, au moins en partie, malléables et changeantes. Et donc, l'intersectionnalité peut nous permettre de voir comment la configuration spécifique dans l'intersection des catégories peut offrir la possibilité de transformer leur signification et aussi les formes d'identification d'un individu dans ces mêmes catégories. Peut nous montrer si nous sommes face à un renforcement des contraintes ou bien si cette catégorie peut devenir, dans un certain contexte, des ressources de subjectivation. Et donc, la focalisation sur l'intersection peut révéler la consistance des identifications dans leur pluralité située, donc montrer leur naturalisation, mais aussi leur fluidité, et donc aussi les capacités personnelles, les espaces de liberté et de résistance aux contraintes. Et donc, l'intersection n'est pas seulement une intersection structurelle, mais aussi une intersection vécue subjectivement. Et donc, c'est réductif de penser la subjectivité qui vit dans l'intersection seulement comme un pur produit de la domination. Non, nous sommes plus peu face à un champ, un cadre, un espace dans lequel c'est quoi d'un côté l'historicité de ces mêmes catégories et d'autre côté les interprétations subjectives contingentes, déterminées par les circonstances. Par conséquent, si l'intérêt de l'intersectionnalité est de pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'intersection, il est évident aussi que la dimension méthodologique est très importante pour comprendre que l'intersectionnalité n'étudie pas seulement la domination, mais aussi la capacité d'action. Et donc, en effet, même si l'intersectionnalité est née comme une perspective méthodologique utilisée pour analyser en profondeur la stratification sociale et sa complexité actuelle, donc engendrée aux États-Unis pour la première fois, on voit ça, on commence à travailler sur ça, donc voir les changements démographiques du marché du travail, des structures économiques, des mouvements migratoires, des formes de multiculturalisme. Et donc on commence à faire référence à des études qui essayent d'élaborer une vision plus complexe de la stratification sociale, non seulement aux États-Unis, bien sûr aussi en Europe. Par exemple, je pense aux études en Angleterre qui ont essayé d'intégrer la notion d'intersectionnalité de Mary Ruald Davis ou de Florian Tias, de voir comment la position sociale des individus n'est plus seulement établie par des dimensions spécifiques comme la profession, les revenus, le patrimoine, mais aussi par des catégories dont les significations sociales peuvent être variables, donc comme dans le cas du genre ou de l'ethnicité. Donc l'intersectionnalité se propose comme méthode capable d'offrir une flexibilité nécessaire pour l'analyse des structures sociales plus stratifiées et pour analyser la complexité des processus de différenciation sociale. Sur ces points, j'espère ne pas être trop technique, mais sur ces points, les observations de Leslie McCall, par exemple, me semblent très utiles. Elle affirme que pour étudier les inégalités avec l'intersectionnalité, il faut certes démontrer d'une façon plus classique les croisements intercatégoriels, donc c'est-à-dire l'intersection entre vecteurs donnés comme la variable du genre ou la variable de la couleur, catégories qui sont établies de l'extérieur, qui ont donc une certaine rigidité dans leur définition, y compris dans la définition donnée par les chercheurs. Mais il faut aussi analyser ce qui se passe à l'intérieur de chaque catégorie quand elle est croisée aux autres, selon une analyse intracatégorielle. Dans ce dernier cas, il s'agit de vérifier la singularité contingente de chaque intersection dans une perspective subjective, et donc dans laquelle les catégories jouent l'une par rapport à l'autre avec des effets subjectifs différents qui ne sont pas nécessairement des simples cumuls d'avantages ou des désavantages. L'analyse est intracatégorielle, donc ouverte, disons, à l'intelligibilité de la situation et de sa spécificité. Donc, si la perspective intercatégorielle nous parle de la position d'un individu, celle intracatégorielle nous parle de ses marges de manœuvre et des résistances qui peuvent apparaître dans un cadre déterminé de la vie quotidienne. Donc, la perspective intercatégorielle est celle peut-être plus intuitive, plus associée cognitivement à la métaphore des routes qui s'intersectent. Et d'un point de vue méthodologique, elle est caractéristique des analyses quantitatives, longitudinales, donc capable de faire le portrait d'une situation structurelle et de son évolution. Au contraire, la perspective intracatégorielle est caractéristique plutôt des analyses qualitatives, centrées sur l'analyse des situations spécifiques et des expériences subjectives, où les catégorisations n'ont pas une définition a priori ou une identification déjà déterminée. Donc, l'intersectionnalité intercatégorielle peut nous donner une idée de la probabilité des trajectoires sociales des personnes qui rentrent dans l'intersection de certaines catégories et qui, par exemple, peuvent cumuler des appartenances à des catégories défavorisées. Si ces mêmes éléments sont analysés d'un point de vue intracatégoriel, ils peuvent aussi nous montrer quelque chose de différent. Comment, par exemple, je ne sais pas, une femme noire issue d'une classe sociale modeste essaye de gérer ses appartenances ou de réagir, de minimiser leurs désavantages. Et donc, l'analyse intracatégorielle permet d'interroger, d'interpréter les processus de construction sociale de catégorisation pour étudier comment les individus articulent ces catégorisations pour échapper à leurs forces contraignantes pour leur donner un sens. Donc, cette double façon de travailler avec l'intersectionnalité intra- et intercatégorielle nous permet peut permettre de considérer la position sociale des individus, de ne pas la considérer comme tout court comme les résultats d'une imposition sociale structurelle, ni non plus à l'opposé comme un choix électif d'appartenance. Bon, il faut dire que la tradition américaine du black feminisme est plus proche à l'idée que les catégorisations sont structurelles, même quand elles utilisent des méthodes qualitatives, et alors que beaucoup d'interprétations européennes se sont plutôt intéressées à la possibilité intracatégorielle, donc d'interpréter les catégories dans une situation plus spécifique, dans leur social location, comme le dit Florian Fiaz, par exemple. Et, bon, sous cette ligne de réflexion, beaucoup d'études ont commencé à utiliser aussi, surtout en Europe, plusieurs catégories au-delà des trois classiques, donc ajoutant l'âge, le niveau d'instruction, l'état de santé, l'effet d'être handicapé. Et cela a souvent produit un discours de l'hypercumulation des dominations et des stigmates, alors que dans d'autres cas, on a remarqué qu'il s'agit plutôt d'analyser la complexité sociale, là où la recherche peut montrer quelles sont les catégorisations qui comptent dans une situation pour les sujets qui se trouvent dans cette situation. Et donc, cela a soulevé d'autres types de questions, par exemple, combien de catégories ou variables sont justifiables, utiles ou gérables, ou si ajouter des catégories ne risque pas de diminuer la capacité d'analyse critique dans l'intersectionnalité. Ça, par exemple, c'est surtout la critique qui a été faite à cette multiplication de catégories par Crenshaw ou par Collins, qui pense qu'ajouter des catégories réduit l'intersectionnalité en méthode trop générique, oubliant sa vocation originaire qui part de l'expérience des femmes afro-américaines. En bref, un des défis méthodologiques de l'intersectionnalité est celui d'opérationnaliser l'idée même d'intersection au-delà de son usage métaphorique. Et ainsi, on peut dire que l'intersectionnalité est une sorte de prisme qui peut nous montrer des choses différentes, la domination subie par les sujets, surtout là où les catégorisations sont rigides et peu négociables, mais aussi la capacité d'agir des sujets pour construire leur propre émancipation en jouant avec les croisements des catégories. Et donc, de la même façon, l'intersectionnalité peut être un instrument pour montrer le pluralisme et les potentialités démocratiques, pour ouvrir l'espace de la conversation entre les différences et la nécessité de les reconnaître dans la vie quotidienne. Mais elle peut aussi être un instrument pour montrer la fragmentation de société. Chaque fois que les catégorisations sont naturalisées, réifiées par les contextes ou par ceux qui les revendiquent, même si cela, bien sûr, n'est pas un problème de l'intersectionnalité, c'est un problème des inégalités, d'individualisation de nos sociétés, de la tendance à se reconnaître dans beaucoup de communautés de semblables, d'identitaires mutuellement concurrentiels. Donc, plutôt, l'intersectionnalité peut nous montrer ces problèmes. Pour essayer de conclure, on pourrait peut-être ajouter que l'intersectionnalité met en tension deux héritages forts de la modernité, donc une vision dichotomique, donc en termes d'acteurs, en structure, mais aussi la question de l'universalisme abstrait incarné par un sujet abstrait. En effet, une vision totalement structurelle ou au contraire totalement subjectiviste ne semble pas approprié pour étudier la situation des sociétés contemporaines, beaucoup plus fluide, beaucoup plus caractérisée aussi par l'incertitude. Et donc, la multiplication des réseaux sociaux dans lesquels chaque individu peut se situer, les situations de pluralisme culturel, la prévisibilité des parcours personnels, professionnels, disons, a rendu obsolète la pensée structurée par dichotomie et au contraire, rend plus plausible une grille d'interprétation comme l'intersectionnalité, donc capable de saisir comment chacun croise et réorganise plusieurs identifications dans sa vie, donc en termes de genre, ethnicité, position sociale. Donc, la perspective de l'intersectionnalité a eu beaucoup de succès parce qu'elle semble offrir une réponse à la nécessité de saisir la multiplication et la nature des catégorisations dans laquelle les individus sont, se trouvent dans leur vie quotidienne. Mais l'intersectionnalité saisit aussi un autre point critique de l'héritage moderne, qui est celui de l'universalisme abstrait. Parce que même, l'idée même d'intersection est contraire à cette abstraction, hein, à cette neutralité, parce que relève d'un croisement des différences qui ne sont pas la simple somme des revendications identitaires. Et là où plusieurs différences se trouvent imbriquées, nous ne pouvons pas voir, bien sûr, un universalisme neutre, ni nécessairement une hyper-identité faite de domination ou de l'hyper subalternité, plutôt encore une fois comme outil de recherche, l'intersectionnalité peut être outil pour voir, pour enquêter peut-être des nouvelles formes d'émancipation, une nouvelle forme d'émancipation qui profite de la pluralité des catégorisations, de leur incohérence. Du fait d'être parfois contradictoire. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'intersectionnalité est tout d'abord un instrument analytique avec plusieurs potentialités, une potentialité heuristique qui peut être pris au sérieux bien au-delà de son usage métaphorique un peu intuitif, même si cette nature métaphorique est à la base de son succès et reste à l'origine de la grande hétérogénéité des réflexions sur ce qui se passe dans l'intersection. Mais l'important est de ne pas définir ces concepts à avance sans faire de la recherche, sans étudier les expériences des sujets, bien sûr. Voilà, j'espère d'avoir lancé quelques idées pour le débat et je crois que je vais m'arrêter. Merci pour votre attention.
Merci, merci beaucoup. Michel, tu veux peut-être intervenir ?
Oui, avec plaisir. Tout d'abord pour remercier Paola, y compris d'avoir parlé en français. C'est quand même très agréable pour nous d'avoir une collègue italienne qui parle si bien français. Mais moi, c'est pas une découverte pour moi, mais ça est certainement pour vous. Alors moi, je voudrais poser des questions qui renvoient peut-être à des questions trop franco-françaises. Donc, peut-être que ce que je veux dire est à côté de la plaque si on regarde les choses un petit peu globalement. Premièrement, en France, dès qu'on dit intersectionnalité, on a le sentiment qu'il y a deux choses totalement contradictoires qui s'affrontent. Pour les uns, c'est le drapeau qui veut dire « je suis d'un certain côté », et pour d'autres, c'est le diable. C'est le diable, c'est le mal, c'est la bêtise, etc. Autrement dit, au lieu de discuter comme tu viens de le faire de façon très posée, du contenu, de ce que ça peut signifier, etc., comme outil, comme concept, comme outil méthodologique, c'est tout de suite une énorme polémique. Je vais y revenir dans une seconde. Mais ma première question, c'est est-ce que ce phénomène est très français, premièrement, et deuxièmement, toujours sur ce phénomène, est-ce qu'il existe une polémique scientifique ou disons sociologique autour de ce concept, ou est-ce que la polémique, elle se joue complètement ailleurs en réalité? Autrement dit, est-ce que les sciences sociales, de façon générale, auraient des bonnes raisons de critiquer fortement ce concept en tant que sciences sociales? Et puis, alors, deuxièmement, c'est un concept qui est intéressant, mais pas seulement parce qu'il dit que les discriminations peuvent faire système, en quelque sorte, être plus que la somme, une par une, de ce qui est en jeu. c'est que ça nous oblige à réfléchir à des contradictions dont tu n'as peut-être pas beaucoup parlé. Il y a parmi nous, je l'ai vu tout à l'heure, Daniel Joly, qui a écrit des choses sur les femmes musulmanes. Quand on est femme et musulmane, on peut très bien être du côté de son mari dans le combat pour les musulmans et contre son mari dans le combat pour l'émancipation de la femme. Ce sont des choses qui arrivent. On pourrait prendre d'autres cas de figure. Mais, autrement dit, ça peut être très contradictoire. Autrement dit, l'addition peut déboucher non pas sur plus de capacité de subjectivation et peut-être d'action, mais au contraire, moins. Ça peut être paralysant. Après tout, est-ce que je vais m'opposer à mon mari ou est-ce que je vais le soutenir? Je ne peux pas faire les deux à la fois. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas très simple. Donc, ce genre de questions, je voulais savoir comment tu les analyses. Et ça m'amène à ma dernière question, donc, qui est la suivante. On entend parfois, c'est peut-être plus militant que réellement conceptuel, on entend parfois l'idée que l'intersectionnalité nous dit où est le lieu du nouveau sel de la terre. La femme qui est handicapée, pauvre, dominée par son mari, african-américaine, etc., etc., elle cumule les risques de discrimination, elle est la nouvelle figure de l'émancipation. C'est évidemment délirant, car s'il y a bien un acteur qui n'est pas capable de à mon sens, justement, de libérer le monde entier en se libérant soi-même, pour paraphraser Marx, c'est bien cette personne. Mais on en a fait parfois le sel de la terre. Donc je voulais savoir comment tu voyais aussi cette dimension, comment dit, les usages militants, activistes, politiques de cette notion, est-ce qu'il ne te semble pas la, comment dirais-je, être à côté de ce qu'il faudrait en faire, voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas séparer le côté conceptuel, méthodologique, et le côté politique et militant? Voilà, c'est ça mes questions. Mm-hmm. Voilà.
Oui. Oui, comme j'essayais de dire, si, sûrement il y a eu des adaptations, des appropriations de ces concepts dans chaque contexte, donc dans chaque cadre national, et donc intersectionnalité, disons, et là, sa genèse dans la situation des États-Unis et donc dans l'histoire de ces pays, mais quand ensuite elle est intégrée dans le débat français plutôt que dans le débat anglais, bien sûr, elle a des adaptations locales. Pour moi, par exemple, que je parle d'un pays où l'intersectionnalité est un thème très peu présent, presque absent, y compris dans l'université, on en parle vraiment très peu, et elle est absolument absente du débat public. Pour moi, par exemple, c'est tout à fait naturel de considérer l'intersectionnalité comme un outil analytique des recherches, pour donc raisonner de cette façon. Mais je me rends compte qu'il y a d'autres situations, donc aussi celle française, où l'intersectionnalité a été probablement vite intégrée dans les débats politiques, disons nationaux. Donc, elle a été intégrée dans des débats qui existaient déjà auparavant. Donc, la question de l'universalisme, la question de la laïcité, donc toutes les questions classiques que vous connaissez beaucoup mieux que moi, ont commencé à être regardées à travers ces prismes de l'intersectionnalité. Et donc, cela peut-être a provoqué une sorte d'interférence continue entre les débats universitaires, donc comment on peut raisonner en termes épistémologiques, méthodologiques, etc., et les débats publics sur des questions dont on discute en France depuis longtemps. Et donc, il y a bien sûr d'autres cas nationaux. Donc, bien sûr, aux États-Unis, cette situation a toujours été présente, donc parce que la genèse de l'intersectionnalité est très liée à des mouvements sociaux. Mais il y a aussi d'autres cas qui sont plus semblables, disons, à celui italien. Donc, je ne veux pas dire que c'est une question franco-française, mais peut-être il y a une sorte peut-être des nationalismes méthodologiques dans la façon de s'approprier de l'intersectionnalité, que c'est peut-être inévitable, parce que, bien sûr, en France aussi, il y a, la sociologie est sans doute beaucoup plus présente dans l'espace public qu'en Italie. Et l'autre question que tu as posée, celle de des sciences sociales, et de la comment raisonner sur le fait qu'un sujet peut être émancipé ou au contraire bloqué dans son processus de subjectivation selon les situations. Dirais que c'est là, par exemple, l'exemple que tu faisais de la femme musulmane qui vit cette contradiction entre la certaines traditions familiales d'un côté et son engagement politique de l'autre. C'est tout un cas typique d'analyse intracatégorielle. Donc, ce qui se passe dans l'intersection, dans chaque situation spécifique. Donc, je ne sais pas, comme cette femme est à la maison avec son mari, plutôt quand elle peut participer dans l'espace public à une mobilisation civile et politique. Donc, l'être femme ou être musulmane, ce sont des catégories, disons, ou des identifications qui peuvent jouer d'une façon différente selon les contextes, mais ces contextes ou ces expériences, ces identifications différentes peuvent aussi peut-être se contaminer réciproquement et puis changer aussi l'action de cette femme, par exemple. Et l'autre question d'une sorte de nouveau sujet qui cumule toutes les dominations possibles, qui devient une espèce de symbole de la domination, là, il me semble peut-être un peu en effet dans un débat historiquement enraciné dans les débats français. Donc, tendance à chercher une sorte de sujet universel qui, dans cette cas, peut-être le sujet donc qui cumule toutes les formes de subalternité et qui devient une espèce de symbole, disons, de la domination. Et c'est par exemple un débat qui n'est pas développé de cette façon aux États-Unis, où l'expérience des femmes afro-américaines est plutôt discutée comme une expérience spécifique, donc qui revendique sa spécificité, qui ne veut pas être une sorte de symbole pour tous les autres, mais plutôt une expérience qui est un exemple de tentative d'émancipation spécifique. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir comment cette notion s'est un peu transformée, a été traduite dans chaque contexte. Et bien sûr, il faut être aussi conscient de cette forme d'adaptation pour travailler avec cette notion.
Merci beaucoup.
Philippe Portier, peut-être.
Oui, moi, je veux bien poser une question à Paola Arbuglini. Moi, merci beaucoup. C'était vraiment très éclairant cet exposé qui nous a permis de faire le tour conceptuellement d'une notion qui est apparue comme étant très importante en France au cours des 10 dernières années et singulièrement au cours de la période récente à propos de la polémique autour de l'islamo-gauchisme. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que Paola Arbuglini nous a dit sur, à la fois sur la question anthropologique et sur la question sociologique. Sur la question sociologique, cette idée que l'intersectionnalité est un concept qui permet de rendre compte d'une société qui, nous a-t-elle dit, est de plus en plus marquée par la fluidité, la complexité, l'incertitude des statuts. Et de ce point de vue, le concept ici suit son objet, l'objet social change, les concepts évoluent. Et puis il y a un second élément qui m'a semblé très, très important dans l'analyse de Paola, c'est sur le terrain anthropologique, l'idée que nous ne sommes pas fixés sur une identité unique, mais que ce qui caractérise notre identité, c'est précisément d'abord la pluralité. La pluralité des statuts, la pluralité des comportements, la pluralité des assignations. Et de ce point de vue, évidemment, le concept d'intersectionnalité permet de rendre compte de la complexité de notre propre moi. Alors, je dirais qu'il y a peut-être trois questions susceptibles d'être posées. La première est la suivante. Est-ce que les sociétés d'hier n'étaient pas également marquées par la complexité des statuts qui auraient pu justifier de la même manière l'usage d'un concept semblable à celui d'intersectionnalité? Est-ce que le concept d'intersectionnalité correspond réellement à une évolution des sociétés ou est-ce qu'on a affaire tout simplement à une complexification de la manière de les saisir? Ça, ce serait ma première question. Ma seconde repose sur les analyses récentes de Gérard Noiriel et de Stéphane Beau qui, au cours de ces derniers mois, ont beaucoup critiqué le concept d'intersectionnalité en estimant que ce concept ne rendait pas le social plus transparent, mais qu'au contraire, il le rendait plus opaque et qu'à travers le concept d'intersectionnalité, les véritables dominations, de leur point de vue, les dominations essentielles sont les dominations de type socio-économique, se trouvaient noyées derrière des dominations de type identitaire ou culturel. Et ça, c'est une seconde question que j'aurais voulu poser à Paola Rebudini. Est-ce que, au lieu de rendre le social plus lisible, ce paradigme, ou ce concept en tout cas, ne le rendrait pas moins préhensible, plus opaque, au fond? Et puis, troisième élément, c'est évidemment très intéressant de lier intersectionnalité et agency, cette idée qu'en repérant subjectivement les propres failles de son statut, on est amené à mettre en place des stratégies de résistance, des stratégies d'opposition qui vont ensuite alimenter les luttes. Mais est-ce que précisément cette intersectionnalité ne rend pas les clivages d'une certaine manière plus floue, en interdisant par là même des opérations d'alliance, des opérations de coalition de cause qui permettraient de remettre en cause les dominations essentielles? C'est aussi une question qui a été posée par Noiriel, qui a été posée par Stéphane Beau aussi dans leur dernier ouvrage. Voilà les trois points que je voulais donc mettre en évidence. Premier élément, est-ce que ce concept n'aurait pas été aussi susceptible de rendre compte de l'état des sociétés passées? Deuxième élément, est-ce qu'il ne rend pas le social plus opaque que lisible? Et troisième élément, est-ce qu'il ne constitue pas une entrave, une contrainte au développement des luttes en interdisant des coalitions de cause?
Oui. D'abord, peut-être pour un souci de réflexivité, autoréflexivité, je peux dire que moi, je suis arrivée à travailler un peu, à prendre en considération la notion d'intersectionnalité pendant mes recherches sur les descendants d'immigrés en Italie. Parce que ce qu'on observait dans la vie quotidienne de ces jeunes, c'était... porte pluralisme, capacité d'intégrer plusieurs identifications à la fois, et donc cette expérience qu'on observait, disons, sur les champs, nous a porté à utiliser cette notion de cette façon, donc comme façon pour éclairer, pour mieux étudier dans la vie quotidienne cette capacité des d'hybridation et des vivres de façon, disons, complémentaire, contemporaine, à superposer plusieurs références. Et Donc, pour les questions, dans le passé, la société n'était pas autant complexe. Donc, pourquoi on n'a pas pensé à l'intersectionnalité? Bon, disons que dans un contexte, il me semble assez intéressant ce qu'il disait, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il avait observé William Du Bois dans ses recherches sur les couches populaires américaines, donc sur les vécus différents de la classe ouvrière afro-américaine par rapport à celle blanche. Donc c'était à l'époque, disons encore, de la société industrielle tout court, mais dans un contexte comme celui américain, par rapport au contraire à ce qui s'est passé en contemporaine en Europe, où il y avait plutôt une vision universaliste de la condition de la classe ouvrière, des couches sociales, disons, populaires. Dans le contexte américain, le fait qu'il y avait déjà des différences qui permettaient d'identifier des catégorisations en relation, dans ce cas, à la couleur et à la position sociale, me porte à penser que peut-être cette complexité et les rôles d'un pluralisme interne ou même d'une fragmentation dans ces cas interne est toujours liée à l'expérience, donc à ce qui se passe concrètement dans une société. Donc il y avait un mouvement, disons, qui allait déjà dans une direction différente dans le cas de la société américaine. Donc peut-être c'est pour ça que cette intuition de l'idée d'intersectionnalité a commencé en Europe aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Sur les problèmes ou la faiblesse de cette notion par rapport à disons à l'opacité, donc au fait que n'est pas utile, donc je connais pas bien toute cette polémique, disons le débat spécifique qu'il y a en France, mais j'imagine que c'est un débat qui fait référence encore une fois à cette question de l'unité, disons, de la critique, ou de la critique aux inégalités, aux discriminations et aux dominations. Donc s'occuper ou essayer d'établir ce type d'analyse critique à partir d'une perspective intersectionnelle porte vers la fragmentation et donc porte à favoriser des formes d'identification séparées plutôt ou au contraire, comme disait Michel auparavant, à construire une sorte d'hyper-subjectivité dominée, me semble un problème qui ne relève pas de l'intersectionnalité en tant qu'outil analytique. C'est plutôt une façon de regarder et d'utiliser l'intersectionnalité qui, en effet, on ne le voit pas fonctionner de la même façon dans un autre type dans un autre contexte ou dans une autre société. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur la question méthodologique, parce que penser l'intersectionnalité d'une façon donc intercatégorielle, donc assez simplement comme les croisements de vecteurs de pouvoir ou des catégorisations ou des variables qui se croisent, nous porte peut-être vers cette idée de fragmentation et donc d'opacité ou de affaiblissement, disons, de ce que peut être la, la capacité de critiquer des problématiques liées à aux inégalités, aux discriminations. Mais au contraire, si on raisonne plutôt à partir de cas plus spécifiques, de contextes plus spécifiques de l'expérience plus située des sujets, donc de façon intracatégorielle, disons, on peut voir des effets différents. Donc, ce qui se passe dans les débats publics, ce qu'on dit dans les débats publics, n'est pas nécessairement ce qui fait partie de la vie quotidienne des personnes et de leur expérience, de la complexité, du pluralisme, de la multiplicité.
Je voulais remercier Paola parce que j'attendais beaucoup d'être convaincu de l'intérêt de cette notion sur laquelle
j'ai pas
beaucoup de temps et je n'ai pas été convaincu, j'ai le sentiment que c'est un truisme sociologique assez vieux. Je me souviens d'avoir lu de très vieilles enquêtes dans lesquelles on mettait l'âge, le sexe, la race, la religion, on croisait les variables, on faisait l'analyse multivariée. Il y a de formidables enquêtes aux États-Unis sur Yankee City qui ne font que de l'intersectionnalité sans le savoir. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est que je ne crois pas qu'il y ait, je crois que c'est un truisme sociologique, c'est une trivialité sociologique, et que la question qu'il faut poser, c'est pourquoi ça a du succès, pourquoi une idée, pourquoi l'invention de l'eau tiède a eu un succès formidable. Voilà, c'est ça la question que j'aimerais poser. Et l'interprétation que j'en ai, c'est que au fond, on a longtemps pensé, à travers la notion de classe sociale, qu'il y avait des mécanismes, un peu à la Bourdieu, qu'il y avait des mécanismes d'agrégation d'inégalités. Et ce qu'on observe maintenant depuis 30 ans, pour des raisons de transformation des sociétés industrielles, c'est qu'il y a un phénomène de singularisation des inégalités. Moi, j'ai été très frappé dans les enquêtes que j'ai faites, dans les enquêtes qu'on faisait avec Michel en 1980 chez les ouvriers de la sidérurgie, il disait « nous, les ouvriers ». Plus personne n'a jamais dit « nous » dans les enquêtes que j'ai faites depuis 20 ans. Les gens disent « moi, je suis inégal en tant que femme, en tant que noire, en tant que prof, en tant que vivant à la campagne, en tant que grand, en tant que petit, en tant que blond, en tant que musulman, etc. » Donc, il y a un fait. Au fond, mon impression, c'est que l'intersectionnalité ne dit rien d'autre que ça, c'est-à-dire on est défini par une singularisation, une individualisation des inégalités. Et comme tu l'as très bien dit, la sociologie, au fond, la plus amusante, c'est celle qui se demande comment font les individus avec cette sorte de diffraction des inégalités, comment ils les combinent, qu'est-ce qu'ils mobilisent. C'est toujours contradictoire. Mais ce n'était pas la peine de fabriquer un faux concept, si je peux me permettre, qui ne dit rien de mon point de vue, que l'on ne sachait déjà, sauf que les sociologues ont changé de lunettes, réduisaient les singularités dans des collectifs, ça n'est plus possible, et je signale, pour les travaux que je continue à faire, que ça n'est même plus possible statistiquement. Ça ne marche plus, y compris statistiquement. Alors, ça, c'est mon explication, c'est qu'au fond, cette notion décrit une mutation de la nature des inégalités, mais n'est certaine, je te demande si tu en es d'accord, mais ce n'est pas un concept théorique qui mérite qu'on se pâme. Il ne dit rien que l'on ne sachait déjà. Bon. Ma deuxième remarque, c'est que le succès très étonnant de cette notion, c'est qu'il correspond à une nouvelle division du travail dans le monde académique qui est extrêmement particulière, alors qu'il y a des raisons qu'on pourrait expliquer par le développement de la concurrence entre les chercheurs, la multiplication des réseaux, mais c'est que chaque chercheur devient le propriétaire de son inégalité, de sa discrimination. On a un réseau sur qu'est-ce que c'est qu'être trans ? Qu'est-ce que c'est qu'être de la deuxième génération ? Qu'est-ce que c'est qu'être de la troisième génération ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme musulmane ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme musulman ? Et je vois autour de moi la recherche sur les inégalités, qui a été longtemps une recherche visant à construire des structures sociales, au fond, est une recherche dans laquelle chaque chercheur devient le propriétaire, souvent agressif, de son inégalité, d'autant plus agressif qu'il est lui-même le porteur de l'inégalité dont il témoigne, ce qui lui donne souvent une authenticité ontologique. Je sais de quoi je parle puisque j'en suis. Et donc, je crois que cette notion, tu peux parfaitement ne pas être d'accord, je crois qu'il faut la tenir pour un symptôme et certainement pas pour un outil intellectuel. Parce que comme outil intellectuel, elle ne dit rien que l'on ne sachait déjà, y compris des très vieux messieurs comme Lazarsfeld, était intersectionnel sans le savoir. Donc, je crois que c'est un symptôme et que ce n'est pas un outil, mais qu'il devient un enjeu symbolique dans un univers de la recherche. Je le vois dans les domaines qui m'intéressent un peu sur les inégalités scolaires. On est dans chacun son inégalité pour se faire sa place dans le champ académique. Alors, j'avais très envie de parler parce que comme je viens de faire un livre là-dessus et qui n'est pas encore imprimé, je voulais savoir si je dis des bêtises ou pas totalement. Voilà.
Par des choses que tu as dit, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le grand succès de cette notion est lié vraiment à sa simplicité, donc à la simplicité de cette métaphore. C'est cognitivement, c'est tellement immédiat. Et donc, le succès est sans doute lié à cette simplicité qui peut la transformer aussi, comme tu dis, dans un truisme. Et ça, c'est peut-être plus évident si on parle de recherche quantitative, longitudinale ou à la Bourdieu, où les catégories sont identifiées par les chercheurs ou bien sont déjà construites a priori. Pour ce qui me concerne, par exemple, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion parce que j'avais besoin d'une sorte de grille qui me permettait plutôt d'analyser d'un point de vue qualitatif cette expérience éclatée, fortement singularisée des jeunes que j'ai interviewés pendant mes recherches. Donc, la singularisation, l'individualisation est hyper évidente. C'est justement à cause de cette singularisation qu'il y a un usage très personnel, très subjectif des catégorisations. Donc, puisqu'on n'est plus situé, donc encore à la Bourdieu, on n'est plus situé dans une position qui relève des catégorisations qui sont aussi cognitivement et culturellement claires dans la tête des individus. C'est plutôt dans l'expérience quotidienne, donc ça, cette fluidité de l'expérience quotidienne que chacun utilise cette catégorie. Donc, ils peuvent être celles du genre, de la couleur, des niveaux d'éducation qui sont assez, d'une façon assez subjectivement, disons aussi explicités ou racontés pendant les interviews. Et donc, il y a, disons, cette nécessité, si tu veux, il y a une nécessité de construire, donc de croiser dans chaque situation spécifique, aussi dans la vie quotidienne, dans chaque contexte, il peut être celui de l'école, plutôt celui de temps libre avec les amis, cette combinaison d'usage à interprétation des catégories. Mais ça, c'est un effet des processus d'individualisation et des singularisations dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, cet usage qui est intracatégoriel, qu'on peut plutôt utiliser dans les recherches qualitatives, est peut-être une, sans doute assez simple, je répète, comme, comme grille d'analyse, mais peut être utile pour voir ou rendre, disons, plus plausible aussi, ou pour compréhensible ces types de narrations de la part des individus. Alors que je suis d'accord sur le fait que l'utilisation en termes de variables de l'intersectionnalité ne porte rien de, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a fait déjà depuis 30 ans, 40 ans. Et sur la division du travail à l'intérieur de l'université, oui, mais ce n'est pas le seul cas, je veux dire. L'effet qu'il y a en spécialisation, en référence en termes de communauté, l'intersectionnalité fait partie, la référence à l'intersectionnalité, aussi dire intersectionnelle, etc., fait un peu partie de ce type de panorama. Donc, encore une fois, puisque je parle d'un contexte où presque personne ne s'intéresse à l'intersectionnalité, je peux le faire de façon assez libre, personnelle, et je ne suis pas, disons, liée à ces... peut-être dans un autre contexte, aux États-Unis ou même en France, ça serait différent. Et mais là, encore une fois, il me semble que l'intersectionnalité est seulement une autre de cette nom, de ces étiquettes qui peuvent être mise en place, disons, après dans cette division du travail du monde académique. Mais ça n'empêche que peut-être dans certains cadres de recherche, et donc je pense justement à ce qu'on observe chez les jeunes générations en termes de processus d'individualisation et des nécessités aussi de faire face à toute une série d'incertitudes, d'anxiété, d'invisibilité du futur qui caractérise les jeunes générations. Cet outil de l'intersectionnalité peut aider à éclaircir un peu la façon avec laquelle les individus jouent avec les catégories et essayent de les utiliser pour minimiser parfois des situations des contraintes d'isolement ou parfois des discriminations. Donc, c'est plutôt de ce point de vue-là que j'ai utilisé l'intersectionnalité, que je pense peut être utile. Désolée si je n'étais pas convaincue.
Non, mais je suis convaincue par ta réponse, j'ajouterais que ça crée deux choses. La première, c'est que je suis frappé par l'obsession du sentiment de mépris, du sentiment d'être invisible, puisque chacun est singulier, chacun a le sentiment que l'injustice qu'il subit est singulière et invisible. C'est une chose, je ne sais pas si tu vois la même chose. Et la seconde, évidemment, c'est que comme tout ça peut être relayé par la toile, chacun est un mouvement social à lui tout seul. Donc, je crois que la question qui va se poser sera celle de y a-t-il une capacité de représentation collective, d'organisation de lutte dans un univers tellement intersectionnel qu'au fond, la convergence des luttes non seulement est impossible, mais elle est impossible au niveau macro, mais même au niveau micro, elle paraît de plus en plus aléatoire, ce qui fait évidemment, je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas en Italie, mais en France, ce qui fait le lit du populisme, puisque au fond, il suffit d'être le peuple pour retrouver une forme d'unité que l'expérience sociale ne fournit plus.
Oui, non, c'est comme ça, mais... disons, dans les narrations de, disons, au moins d'une partie des plus jeunes, ils sont très conscients de ces problèmes. Ils sont très conscients de ces problèmes. Et donc, ils cherchent des formes de convergence, ils cherchent des formes de coopération à partir de la reconnaissance de cette pluralité, de cette pluralité d'appartenance. Et donc, c'est très clair que c'est une situation complètement différente par le passé, que le danger opposé est celui du populisme. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment cette façon de s'entremêler des catégorisations, disons, sociales ou des identifications, on peut aussi les appeler, sont mises en place dans la vie quotidienne, surtout des plus jeunes, parce que c'est la conscience de ces problèmes me semble beaucoup plus aiguë chez les jeunes générations plutôt que chez les adultes.
Ok, il y a deux autres questions, je crois. Il y a Daniel Joly, Martine Cohen, qui vous voulez. Mais je...
Ma question, c'est continue complètement celle de François Dubé. Moi, je me suis longtemps posé la question aussi, quoi de neuf avec l'intersectionnalité par rapport à la sociologie classique de croisement des variables. Je me suis beaucoup demandé ça, et puis petit à petit, je me suis dit que la première réponse que je me suis faite, c'est intervient la notion de domination. Ce n'est pas un croisement abstrait, si je peux dire, ou non théorique, si je peux dire, des variables, âge, sexe, etc. Mais il intervient la notion de domination. Et donc, et uniquement cette question-là, si je peux dire, la domination caractérise ce croisement de variables particulier, caractérise de manière particulière ce croisement de variables. Bon. Et en vous écoutant, j'ai pensé à un autre aspect nouveau par rapport à l'habituel, le classique croisement des variables en sociologie, c'est la notion d'agency ou de sujet, voilà. Qui, du coup, donc on a des individus qui sont réflexifs, qui s'approprient des catégories sociologiques, on va dire, hein, par l'âge, le sexe, la couleur de la peau, ensuite, etc. Qui s'approprient et qui se disent, mais moi je suis à la croisée de ceci, cela, femme, noire, blanche, etc. Et donc, il y a une notion de sujet qui s'approprie cela et qui met en œuvre telle ou telle appartenance particulière. Et donc, voilà, ma question c'est, est-ce que vous voyez d'autres apports particuliers de la notion d'intersectionnalité par rapport à la sociologie classique du croisement des variables que la notion de domination et que la notion d'agency. Et ma deuxième question, c'est concerne l'idée de la question de la réification des catégories. Si en sociologie, a priori, quand on fait de la bonne science sociale, on va dire, on ne réifie pas les catégories, c'est sûr que si on en vient à parler de domination structurelle, c'est le cas aux États-Unis, peut-être aussi, enfin, en partie aussi chez nous, en France. Dès qu'on parlerait de domination structurelle, donc forte, quoi, on pourrait facilement tomber, si je peux dire, dans la réification des catégories, dans l'essentialisation. Et les sociologues eux-mêmes ne seraient pas indemnes de cette erreur, quoi. Voilà.
Oui, alors très rapidement, disons les dangers de la réification des catégories a été présent depuis le début. Hein, donc si on lit Crenshaw, elle dit justement ça. Les problèmes, c'est la réification des catégories dans les droits. Et donc l'intersectionnalité doit être un instrument pour éviter cette réification des catégories et aussi pour éviter que la domination soit considérée tout simplement comme un cumul de domination. Donc, disons là, en général, dans la littérature scientifique sur le thème de l'intersectionnalité, ces problèmes sont toujours traités d'une façon disons, très, très claire, très, très évidente. Mais par contre, c'est moins fréquent une utilisation de la notion d'intersectionnalité pour étudier l'agency, donc pour étudier la capacité d'action de l'individu. C'est plus, disons, fréquent qu'on l'utilise pour voir ce qu'un individu ne peut pas faire ou ce qu'un empêché de faire à cause donc de réification des catégories qui vient de l'extérieur. Et donc, disons, il y a moins de recherches sur l'utilisation, disons, on utilise l'intersectionnalité pour étudier la capacité d'agir et donc la capacité de gérer en situation. Donc, ce qui ne veut pas dire toujours dans sa propre vie ou dans toutes les situations, mais dans certaines situations, dans certains moments, dans certains contextes de sa propre vie, il peut y avoir on peut observer donc cette capacité de avoir une identification plus autonome, plus consciente, plus réflexive des catégorisations, donc qui ne se limite pas à contester une réification qui vient de l'extérieur, mais qui est capable subjectivement ou fait l'effort de gérer d'une façon autonome ces catégorisations, de les définir. Donc ça, c'est une potentialité de la recherche avec l'intersectionnalité, quand elle n'est pas banalisée à la notion des variables, bien sûr.
Bon, les deux notions importantes, c'est domination et agency, par différence avec les catégories que les sociologues utilisent habituellement pour croiser les variables, comme on dit. Mm-hmm. Oui. D'accord.
Daniel ?
Je pense que, dans une certaine mesure, l'intersectionnalité est petite fille du postmodernisme, qui, en partie, mettait l'accent sur l'expérience individuelle. L'intersectionnalité met l'accent sur les expériences multiples individuelles. Alors, dans ce sens, c'est une fragmentation, et ça reflète notre société comme le postmodernisme le faisait. Mais dans un autre sens, elle peut au contraire amener une sorte d'universalisme, dans le sens de prendre conscience de plusieurs facettes unies, cohérentes, alliées, et même à des stratégies d'alliance, par exemple, plutôt que des stratégies d'exclusion, notamment dans le domaine des luttes. Ça peut amener des stratégies d'alliance entre des groupes dominés dans certaines sphères sociale et politique, et dans cette certaine sphère de l'action. Par exemple, le fameux GILAM dont on a parlé, que j'ai étudié de façon approfondie, était amené à évoluer dans différentes sphères de l'action, en tant que personne de couleur, en tant que personne musulmane, en tant que femme dans la communauté, etc. Et articuler toutes ces différentes dimensions de comme l'a dit Martine, de la domination, pour arriver à une position plus universaliste, de revendication, de lutte contre les inégalités dans tous les domaines dans lesquels elles devaient évoluer. Donc, ce n'est pas aussi simpliste que de dire ça amène une fragmentation. Et par ailleurs, même dans le domaine des luttes, on trouve que certains acteurs et actrices se posent à l'intersectionnel. Ce qui est assez intéressant. On pourrait présumer, d'après ce qui évolue autour de nous, que dans le domaine des luttes, certes, la plupart de nos acteurs et actrices s'approprient la notion d'intersectionnalité. Bien non. Par exemple, Ourya Boutelja se pose à l'intersectionnalité parce qu'elle dit la domination principale, l'oppression, la discrimination principale, c'est le racisme. Tout le reste doit être écarté. Le Parti communiste d'autrefois, la lutte des classes est la plus importante. Donc, nous ne nous occupons ni de racisme, ni de sexisme. Donc, nous voyons les deux facettes de l'intersectionnalité. Je pense, en tant qu'outil d'analyse, qui peut démontrer la fragmentation et l'analyser, ou au contraire, adopter un autre prisme, une autre lunette d'approche. Ah oui, une dernière question. Est-ce que l'intersectionnalité est utilisée comme outil d'analyse pour étudier les avantages multiples homme blanc de la religion dominante ayant un capital culturel social, je ne sais pas.
Oui, ça existe quelques recherches sur l'accumulation des avantages, non seulement des dominations. Oui, c'est plus rare, mais ça s'est utilisé même de cette façon.
Je me suis fait traiter à un autre séminaire de mâle dominant blanc. C'est d'intersectionnalité.
Oui. Pardon. Oui. Je voudrais ajouter juste une chose, parce qu'on arrive à la fin, là, mais effectivement, sur l'aspect, moi, j'ai trouvé très intéressant l'intervention. C'est vrai que y a malgré tout, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un côté truisme, enfin, que c'est quelque chose qu'on savait déjà. Il y a toujours cette ambiguïté soulignée aussi par Michel dans son bouquin récent, mais entre mais aussi par Paola, entre les usages disons militants et l'aspect universitaire, et en réalité la différence est ténue, j'ai l'impression. Mais un autre élément aussi, c'est que j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me corriger si je me trompe, en tout cas pour la France, je trouve qu'il y a beaucoup d'écrits, quand on cherche des écrits sociologiques sur cette notion, il y a beaucoup de choses théoriques et en fait il y a très peu d'analyses concrètes de cas, et donc j'aurais tendance à rattacher ça, comme dit Daniel, à une sorte de tradition peut-être postmoderne où on réfléchit beaucoup de manière théorique, mais j'ai ce sentiment que est-ce que c'est pas pour accoucher d'une souris, entre guillemets? Mais je n'en sais rien. Je pose la question, et peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus développées ailleurs, ou au contraire, est-ce que ça reste extrêmement théorique?
Non, disons, il y a beaucoup de recherches faites avec l'intersectionnalité, même si la plupart des recherches sont encore des recherches quantitatives, donc ils l'utilisent avec à partir d'une notion de variable ou d'une idée de variable, de catégorie en tant que variable. Mais il y a, on commence à voir aussi une recherche internationale, non seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi dans d'autres pays, qui utilisent l'intersectionnalité avec des méthodes qualitatives. Mais c'est vrai que surtout dans les revues Gender Studies, qui publient en majorité les articles et les réflexions sur l'intersectionnalité, la plupart des articles sont des articles théoriques, donc parfois méthodologiques, des réflexions méthodologiques, mais encore très, très abstraits. Hein, donc, mais on commence à voir aussi, et c'est intéressant qu'il ne soit pas seulement en Europe et aux États-Unis, aussi des recherches qui utilisent l'intersectionnalité pour étudier la vie quotidienne des sujets, des individus, et donc de leur façon de gérer cette forme de catégorisation.
Bon, je pense qu'il faut remercier Paola, c'était très précieux.
Merci à vous.
D'avoir une discussion sérieuse sur des enjeux dont on est en train de parler sans toujours trop savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, un grand, grand merci. Peut-être un dernier mot, Paola, avant de se séparer. Il me semblait que les tout premiers travaux de Kimberly Crenshaw étaient très, à la fois empiriques et pas seulement théoriques. Elle étudiait des décisions de
justice. Oui, tout à fait, des cas concrets.
C'est quand même un nez de... d'un travail concret, hein, c'est pas...
Cette notion née de l'expérience quotidienne et des travaux empiriques. Ensuite, c'est s'est développé en débat plus abstrait, surtout dans
cette revue. Un grand merci, c'était un grand, grand plaisir.